Chapitre 6. De la tragédie, sa définition, de ses différentes parties, la fable, les mœurs, les paroles, les pensées, le spectacle et le chant. Nous parlerons ci-après de l'épopée et de la comédie. Ici, il ne sera question que de la tragédie. Et pour en donner une définition exacte, nous rassemblerons tout ce que nous en avons dit. La tragédie est l'imitation d'une action grave, entière, étendue jusqu'à un certain point, par un discours revêtu de divers agréments, accompagné dans ses diverses parties de formes dramatiques, et non par un simple récit, qui, en excitant la terreur et la pitié, admet ce que ses sentiments ont de pénible. Je dis un discours revêtu de divers agréments. Ces agréments sont le rythme, le chant et le vers. Je dis dans ces diverses parties parce qu'il y a des parties où il n'y a que le vers, et d'autres où il y a le vers et le chant musical. Puisque c'est en agissant que la tragédie imite, il est nécessaire premièrement que le spectacle, la mélopée, les paroles, soient des parties de la tragédie. Car c'est par ces trois moyens que la tragédie exécute son imitation. J'appelle parole la composition des vers, et mélopée ce dont tout le monde sait l'effet. En second lieu, puisque c'est une action que la tragédie imite, et qui s'exécute par des personnages agissants, qui sont nécessairement caractérisés par leurs mœurs et par leurs pensées actuelles, car c'est par ces deux choses que les actions humaines sont caractérisées, il s'ensuit que les actions, qui font le bonheur ou le malheur de tous tant que nous sommes, ont deux causes, leur mœurs et la pensée. Or, l'imitation de l'action est la fable, car j'appelle fable l'arrangement des parties dont est composée une action poétique. J'appelle mœurs ce qui caractérise celui qui agit. Et pensée, l'idée ou le jugement qui se manifeste par la parole. Il y a donc nécessairement dans toute tragédie six parties. La fable, les mœurs, les paroles, la pensée, le spectacle et le chant. Deux de ces parties sont les moyens avec lesquels on imite. Une est la manière dont on imite. Trois sont l'objet qu'on imite. Il n'y a rien au-delà. Il n'y a point de tragique qui n'emploie ces six parties et qui n'ait spectacle ou représentation, fable, mœurs, pensée, parole et chant. Mais de ces parties, la plus importante est la composition de l'action. Car la tragédie est l'imitation non des hommes, mais de leurs actions, de leur vie, de ce qui fait leur bonheur ou leur malheur. Car le bonheur de l'homme est dans l'action. La fin même est action et n'est pas qualité. La qualité fait que nous sommes tels ou tels, mais ce sont les actions qui font que nous sommes heureux ou que nous ne le sommes pas. Les poètes tragiques ne composent donc point leur action pour imiter le caractère et les mœurs. Ils imitent les mœurs pour produire l'action. L'action est donc la fin de la tragédie. Or, en toute chose, la fin est ce qu'il y a de plus important. Sans action, il n'y a point de tragédie. Il peut y en avoir sans mœurs. La plupart de nos pièces modernes n'en ont point. C'est même le défaut assez ordinaire des poètes comme des peintres. Zeuxis était fort inférieur à Polygnote en cette partie. Celui-ci excellait dans la peinture des mœurs. On n'en voit point dans les tableaux de Zeuxis. Il en est de même des paroles et des pensées. On peut coudre ensemble de belles maximes, des pensées morales, des expressions brillantes, sans produire l'effet de la tragédie. Et on le produira si, sans avoir rien de tout cela, on a une fable bien dressée et bien composée. Enfin, ce qu'il y a de plus touchant dans la tragédie, les reconnaissances, les péripéties, sont des parties de l'action. Aussi, ceux qui commencent à composer réussissent-ils bien mieux dans la diction, et même dans les mœurs, que dans la composition de l'action. On peut en juger par les premières tragédies. L'action est donc la base, l'âme de la tragédie, et les mœurs n'ont que le second rang. Elles sont à l'action ce que les couleurs sont au dessin. Les couleurs les plus vives, répandues sur une table, feraient moins d'effet qu'un simple crayon qui donne la figure. En un mot, la tragédie imite des gens qui agissent. Elle est donc l'imitation d'une action. La pensée a le troisième rang. Elle consiste à faire dire ce qui est dans le sujet ou ce qui convient au sujet. Cette partie se traite ou dans le genre simple et familier, ou dans le genre oratoire. Autrefois, c'était le familier. Aujourd'hui, c'est l'oratoire. Les mœurs sont ce qui fait sentir quel est le dessein de celui qui agit. Aussi, il n'y a point de mœurs dans les pièces où l'on ne pressent point ce que veut ou ne veut pas celui qui parle. La pensée est ce qui indique ce qu'une chose est ou n'est point, ou plus généralement, ce qui indique quelque chose. La diction suit les pensées. J'entends par diction, comme il a été dit ci-devant, l'interprétation des pensées par les mots. Elle a le même effet, soit en vers, soit en prose. La cinquième partie est la mélopée. C'est des agréments de la tragédie, celui qui fait le plus de plaisir. Quant au spectacle, dont l'effet sur l'âme est si grand, ce n'est point l'affaire du poète. La tragédie subsiste tout entière sans la représentation et sans le jeu des acteurs. Ces deux choses sont plus spécialement du ressort des ordonnateurs du théâtre que de celui des poètes.